Chapitre 35. L'armée du tipi. Les enfants du tipi progressaient en silence dans les couloirs du métro. Akane marchait en tête, Zizo se tenait à ses côtés, Bill et Mordelia suivaient immédiatement. Une centaine d'enfants avançaient derrière eux en procession, armés de pieux pointus, de silex aiguisés en lance, épée ou poignard. Certains ne portaient que des tuniques légères, et d'autres étaient protégés par des casques d'osier tressés, des fourrures ou des boucliers d'écorce. Souvent, Akane s'arrêtait pour consulter le plan. À chaque pause, Mordelia montrait son agacement. Elle aurait aimé qu'on progresse plus vite. Elle avait passé des heures à étudier la carte et connaissait désormais l'ensemble du parcours qui conduisait directement sous le château, au pied du donjon. Bill lui aussi s'impatientait à chaque arrêt. Il avait revêtu une fourrure de tigre, assortie aux dents du fauve, percée pour en faire un collier, et portait sous ses bras deux lances, des branches de buis, souples et légères, à l'extrémité desquelles il avait attaché, avec un solide lacet de cuir, deux cornes torsadées d'antilope. Une pour lui, et l'autre pour Mordelia. « Les deux armes les plus redoutables de la troupe !» affirmait Bill. « Maniables, incassables, tranchantes !» Akane, à chaque bifurcation, continuait de prendre le temps d'écouter le silence. Il redoutait un piège, guettait la moindre présence d'espions, scrutait les environs avec une lente attention avant d'engager enfin sa troupe dans un nouveau couloir. Zizo, silencieux à ses côtés, reconnaissait chaque détail du parcours. Sans plan, il se serait perdu, mais à chaque nouvelle direction, des points de repère lui revenaient. Sans aucun doute possible, il se dirigeait droit sous le château. Une boule dans son ventre lui bloquait la respiration, aussi lourde et dure qu'une pierre. Elle n'avait pas cessé de grossir depuis son réveil. Mordelia avait insisté pour que leur armée se lève très tôt ce matin-là. Avant qu'ils ne se mettent en route, elle avait réuni tous les enfants sous le tipi et, devant leurs yeux encore endormis, dans la pénombre entre jour et nuit, avait sorti l'un des trois livres de son sac. Un livre sans images. « Iliade », lurent les rares qui savaient déchiffrer les lettres. Mordelia avait expliqué que ce livre contenait tous les secrets pour gagner une guerre. Puis, d'une voix envoûtante, elle s'était mise à le raconter. Pendant 10 ans, des guerriers appelés les Grecs avaient essayé de pénétrer dans un château, celui d'une autre tribu, les Troyens, sans y arriver. Jusqu'à ce qu'ils trouvent une ruse pour entrer par surprise alors que tous les Troyens dormaient et les attaquent pendant leur sommeil. Mordelia avait terminé son discours en lisant à voix haute de brefs passages du livre, ceux où les Grecs se vengeaient de 10 ans d'humiliation en mettant le feu au château des Troyens, en se servant à pleine main dans les trésors qu'ils protégeaient depuis des années, en jetant du haut des murs ceux qui résistaient, en assassinant les chefs, en torturant les prisonniers. Zizo avait failli s'évanouir en imaginant que c'était Sabi, Osman, Lunella, que ses frères et sœurs du tipi réveilleraient et massacreraient s'ils ne se rendaient pas. Que c'était les appartements de la reine qu'il saccagerait. Que c'était Alix qu'il jetterait d'une fenêtre si elle résistait. Les enfants du château n'étaient pas armés. Ils n'avaient aucune raison de se méfier. Ils se levaient tard en général, jamais avant le soleil. Le plan de Mordelia était parfait. Zizo aurait aimé échanger sa vie contre toutes les autres, si cela avait pu éviter une telle tragédie. Il se sentait misérable, pitoyable. Il aurait voulu, tel le petit rat d'égout qu'il était, s'enfoncer dans un trou puant et y être enterré vivant. Pourtant, après la terrifiante lecture de Mordelia, Akane avait pris la parole et demandé à Zizo de s'avancer devant tous les autres enfants du tipi. « Si nous triomphons aujourd'hui, » avait déclamé Akane, « c'est grâce à Zizo. Sans lui, jamais nous n'aurions pu attaquer le château. Il y est resté plus de 9 mois prisonnier, mais il ne nous a jamais oubliés. » Et Akane avait tendu le bras, très haut, en agitant le plan du métro, tel un drapeau, et tous les enfants l'avaient applaudi en tapant des mains et en criant « Zizo, Zizo, Zizo !» Exactement comme quand il avait gagné le tournoi de l'étoile, comme les enfants du château. Zizo était maudit. Il aurait voulu se boucher les oreilles, se coudre les paupières. Mais non, Il entendait, il voyait tout. Au loin, en direction de la forêt, il apercevait une longue colonne de fumée s'élever dans le ciel et une lueur claire, sans doute celle d'un feu, mais d'un feu qui devait être gigantesque pour qu'il soit visible à cette distance. Il observa encore les oiseaux dans le ciel, qui semblaient fuir les bois entourant la ville. Sa dernière pensée, tout aussi épouvantée, fut pour Agnel, avant qu'Akan ne donne l'ordre à sa troupe de quitter le tipi pour rejoindre le métro du Trocadéro. Ils atteignaient maintenant une station de métro nommée Palais Royal. Akan fit stopper une fois de plus la longue file de guerriers et interrogea Zizo du regard. Le garçon resta impassible, même si, désormais, il reconnaissait les longs couloirs. Ils étaient tout proches. Dans quelques minutes, ils seraient sous le château. Mordelia consulta le plan avec Akan alors que Bill surveillait Zizo, méfiant, agitant deux lances d'antilope à quelques centimètres de son cou. Dans sa tête, le plus vite possible, Zizo échafaudait une stratégie. Sitôt entré dans le château, il reconnaîtrait les lieux. Il pourrait s'enfuir, courir entre la prison du donjon et le sphinx qui gardait l'entrée du pavillon des savants. Il pourrait grimper les escaliers, foncer jusqu'au dortoir et crier, réveiller les enfants du château, leur dire de fuir vers le verger. C'était la seule façon d'éviter le massacre. Ses amis du tipi ne se méfieraient pas, ils le prenaient pour un héros. Une fois de plus, il changerait de camp. Il serait à nouveau un traître aux yeux de tous. Mais c'était la seule solution. Il n'allait pas laisser ses amis du château se faire égorger dans leur sommeil par ce fou de Bill déguisé en tigre. « C'est tout droit !» fit Mordelia alors qu'Akan repliait le plan. « Nous y sommes presque. Je crois que nous n'avons plus besoin de notre éclaireur. » Akan confirma. « King Bill !» ordonna Mordelia. « Accompagne Zizo à l'arrière et ne le lâche pas des yeux !» Cette sorcière de Mordelia avait-elle lu dans ses pensées ?« Une fois dans la place, » continua-t-elle, « nous aurons besoin que les premières entrées soient les plus déterminées. » Zizo constata avec effroi que les premiers rangs de leur troupe étaient constitués des garçons et des filles les plus forts du tipi, mais aussi de ceux qui ne savaient ni lire ni écrire et qui se contentaient de se battre toute la journée ou de torturer des petits animaux. Ils étaient une vingtaine, armés jusqu'aux dents, et certains portaient même, comme Bill, des costumes de fauves, quelques hyènes, deux facochères, deux porcs-épics hérissés et un tatou cuirassé.
« Reste là !»
fit Bill en approchant encore sa lance. Sous la menace de l'enfant-tigre, Zizo dut laisser passer la longue procession des guerriers. Presque tous le doublèrent, à l'exception de Vanil qui pourtant marchait sans porter aucune arme, les mains tremblantes, les yeux baissés comme pour compter le nombre de pas qu'avaient fait ses pieds depuis qu'ils avaient quitté le tipi. Bill fit signe à Zizo de rester avec les derniers enfants.
« Laisse faire les hommes maintenant !»
ricana-t-il en réajustant sa fourrure de tigre. Puis il remonta rapidement la file d'enfants, laissant Wayne et Cheyenne, armés de poignards de silex, surveiller Zizo, avec pour consigne qu'il ne bouge pas pendant tout l'assaut. Dans la tête de Zizo, les derniers espoirs s'envolaient. Il lui serait impossible de prévenir ou de porter secours à ceux du château. Il n'avait plus la force de marcher. Il n'avait plus le courage de suivre le groupe. Il n'avait qu'une envie, courir en sens inverse, seul, dans les couloirs, dans les rues, se perdre et ne plus jamais revoir aucun autre enfant, ni du tipi, ni du château. Aucun ami. De ne jamais apprendre ce qui allait se passer. De ne jamais savoir qui allait tuer qui. Sur ses joues, les larmes coulaient. Il sentit une petite main chercher la sienne, se glisser à l'intérieur, l'inviter à la serrer. Il entendit une petite voix lui parler. « Tu les aimes plus que nous? C'est pour ça que tu pleures, Zizo ?» La voix de Chrysante. Plus encore à la traîne que Vanille, Chrysante fermait la marche. Elle ne portait aucune arme, juste sa poupée. Zizo, à son tour, serra très fort la main de la petite fille. Elle aussi pleurait.
Tu les aimes plus que nous? Tu as sûrement une amoureuse là-bas. C'est pour cela que tu veux y retourner.
Une amoureuse. Zizou repensa aux derniers mots d'Alix, ce contrat d'honneur qu'il avait accepté avant de l'embrasser. « Il faut que tu détruises ce plan sitôt que tu es sorti du château. Tu m'entends bien? Tu dois le brûler avant de retrouver tes amis du tipi. » Il avait cru pourtant le brûler, ce plan. Zizou se rendait compte qu'il n'était pas seulement un traître. Il était fou aussi.